on va rentrer dans le dossier de cette émission. On a interviewé il y a quelque temps Hacène Belmessous. Hacène Belmessous qui a publié aux éditions La Découverte Opération banlieue, comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités française, un livre dont on va parler avec lui tout au long de l'émission, et puis un deuxième livre pour le qui nous a intéressé également et qui sera mentionné dans l'interview, c'est Mixité sociale, une imposture, retour sur un mythe français. Donc ça c'est paru plus précédemment à La Talente en 2006. Voilà, donc Hacène Belmessous, eh ben on va tout de suite lui demander comment ça lui est venu ce livre Opération banlieue. Comment vous est venue l'idée de ce livre Opération banlieue ? Enfin, l'idée, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire ?
C'est à la fois l'anecdote que je cite dans le livre, qui se situe dans une grande métropole, et qui montre que le ministère de l'Intérieur est un acteur omnipotent dans les commissions de rénovation urbaine. C'est-à-dire que l'anecdote, c'est celle-là. Lors d'une commission programmatique, le représentant du ministère de l'Intérieur a contesté une démolition, estimant qu'il fallait penser avant tout dans la rénovation urbaine aux interventions policières. C'est-à-dire que la reconfiguration des quartiers, c'est aussi, et même peut-être plus, penser le territoire à travers la façon avec laquelle la police pourrait intervenir en cas de troubles urbains. Donc c'est cette anecdote-là qui m'a incité finalement à réfléchir à cette question, à y travailler. Et c'est aussi parce que moi je travaille sur la cité. D'ailleurs ce livre, c'est pas un livre sur la banlieue, c'est plutôt un livre sur ce qui se passe dans nos villes actuellement. C'est aussi voir finalement cet envers du décor. La ville, c'est pas seulement les logements sociaux, c'est pas seulement les espaces gentrifiés, c'est pas seulement le capital finalement qui mange les centres urbains, c'est pas seulement voilà, c'est les conflits, c'est aussi la politique sécuritaire menée par ce pouvoir-là. Il y a toujours eu, finalement, l'urbanisme a toujours permis de faire la guerre. Quelqu'un me rappelait, il y a peu, le travail du baron Haussmann, hein, opéré à Paris, et sa vision, finalement, sa vision hygiéniste de la ville. La ville, de toute façon, c'est le lieu du conflit. La question qui se pose, c'est, elle est autre à travers ce qu'on observe dans les banlieues populaires. C'est-à-dire que c'est un territoire qui a été dépolitisé. Ce sont plutôt des territoires qui ont été dépolitisés. Ce sont des territoires qui ont été dévitalisés sur le plan démocratique, finalement rendus comme des espaces du fait divers, hein, j'allais dire. Et au nom de ce processus, j'allais dire régressif, il est développé finalement une guerre totale à ces individus. Voilà. Je situe ma problématique à ce niveau-là. Si la question, par exemple, qui est posée dans ce livre, à savoir l'imminence d'une intervention de l'armée dans les banlieues populaires, est-ce qu'elle est neuve ? J'ai envie de rappeler une anecdote d'un fait rapporté par Patricia Adam, la députée PS spécialiste des questions de défense, qui dit que déjà au début des années 90, au moment des émeutes à Vaux-en-Velin, et ensuite dans les Yvelines, hein, à Sartrouville et à Mantes-la-Jolie, quelques-uns avaient pensé finalement, pour couper court à ces émeutes, avaient pensé à une intervention militaire. Donc on n'est pas dans quelque chose de neuf. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2002, et le fait que l'eupénisation des esprits, finalement, a vaincu, j'allais dire, tous les esprits, malheureusement. À savoir que ces territoires-là sont des territoires définitivement insécures, ce sont des territoires définitivement hors du droit, ce sont des territoires finalement hors de la civilisation française. Amplifié après les émeutes de l'automne 2005 par tout un travail d'emprise sécuritaire sur ces territoires, un travail également de pourrissement de la situation, de la vie sociale de ces quartiers. Tous ces événements finalement convergent vers quelque chose qui est effectivement nouveau, au sens où les conditions aujourd'hui d'une intervention militaire dans les banlieues populaires sont créées. Voilà. Aujourd'hui, le livre blanc, par exemple, que je cite, le nouveau livre blanc de la sécurité collective qui date de 2008, donc le livre blanc crée le cadre finalement d'une intervention militaire. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, tous les corps de sécurité, que ce soit l'armée de terre, les gendarmeries mobiles et la police, travaillent dans un sens commun, c'est-à-dire comment intervenir, quelle stratégie opérer en cas d'émeutes urbaines. Voilà, ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique de la ville dans ces quartiers-là, il n'y a plus de politique tout court, comme je vous le disais, mais il y a finalement une vision sécuritaire et une orientation sécuritaire finalement qui prédomine. Voilà. Ça c'est, est-ce que c'est neuf? On va dire que c'est un processus qui était long, lent, mais qui aujourd'hui est extrêmement inquiétant.
Mais donc c'est un des points intéressants du livre, c'est que vous avez pu parler à des militaires et même des hauts gradés qui ont parlé à la visage découvert et qui vous ont donné leur sentiment là-dessus. Alors, quel est le sentiment des militaires là-dessus?
Leur sentiment, il est celui que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on est dans une trajectoire régressive et que, voilà, on est dans un environnement inquiétant, c'est-à-dire qu'une intervention militaire dans les banlieues est aujourd'hui de l'ordre du probable. Ils ne le souhaitent pas tous du moins, mais ils sentent que finalement, voilà, il y a une sorte de contexte qui s'est altéré, un environnement social qui est inquiétant. Le livre, il n'est pas fait que d'entretien, hein. Il est aussi fait d'un travail d'observation dans deux lieux différents. Le centre de formation des gendarmes mobiles à Saint-Astier, dans lequel les gendarmes ne travaillent pas seulement le maintien de l'ordre, mais aussi différents scénarios d'intervention en cas d'émeutes urbaines. Voilà. Ils appellent ça les violences urbaines, mais le terme violence, je trouve qu'il est totalement galvaudé à cette zone-là. Et à Sissonne, qui est un immense champ de manœuvre de l'armée de terre, presque similaire à Saint-Astier, au sens comme à Saint-Astier, il y a une fausse ville avec son faux cadre urbain, j'allais dire, hein, du moins des choses qui sont réelles, mais pas habitées. À Sissonne, c'est tout type d'habitat, pavillonnaire, grand ensemble, habitat dense, les places, les commerces, les rues larges, les rues serrées, une voie navigable, une future gare, etc. C'est-à-dire que, où l'armée travaille évidemment sur des scénarios d'intervention à partir de rétextes, hein, des retours d'expérience de ce qui se passe actuellement en Afghanistan, en Irak, mais également a entrepris depuis novembre 2009 de gagner une expertise dans ce qu'on appelle le contrôle des foules, c'est-à-dire comment neutraliser un individu inquiétant, entre guillemets, et régulier, comme disent les militaires, dans la population civile. En gros, bombe humaine ou je ne sais quoi. Et le fait que l'armée, les militaires de l'armée de terre, finalement, acquièrent une compétence de gendarmesque, hein, pour finalement opérer sur le territoire extérieur, est inquiétant, parce que la question qui se pose, c'est et si finalement cette compétence-là, cette expertise-là, finalement, ne peut pas être aussi employée sur le territoire urbain. En gros, faire du contrôle des foules à Kaboul Aujourd'hui, pourquoi pas faire du contrôle des foules demain à la Courneuve ?
Donc il y a les militaires qui sont censés normalement intervenir à l'extérieur face à un ennemi armé qui a déclaré la guerre, ce qui n'est quand même pas la même chose que maîtriser une foule, effectivement. Les gendarmes qui sont plus spécialisés donc, sur ces questions-là, entre autres, et les policiers. Et en fait, tous ces projets que vous mettez à jour aussi mettent à jour les concurrences qu'il y a entre ces différents corps de sécurité.
Je ne parle pas de projet, moi. Hein. Je parle de conditions, finalement, de mise en condition dans un environnement qui est régressif sur le plan politique. C'est ça que je veux dire. Et je parle de politique sécuritaire. Alors, effectivement, il n'y a pas de consensus entre les différents corps de sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, le rapprochement entre la gendarmerie et la police nationale est contesté par nombre de gendarmes. Je parle d'officiers, moi je ne parle jamais de gens de la base, qui estiment que, d'une part, les valeurs et les objectifs ne sont pas différentes. D'ailleurs, les gendarmes répètent souvent, nous, quand on aborde des gens, même dans les banlieues, on est poli, on est civilisé, et on est respectueux des individus, même s'ils sont délinquants. Tandis que la police, finalement, elle utilise d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'en gros, eux se disent républicains dans leur pratique, dans leur manière de penser leur métier, tandis que la police, finalement, est davantage une police... là-dessus, ils ont raison, une police qui se pense en mission, une police de combat. Donc voilà, il y a ce hiatus-là, comme il y a cette crainte aussi, finalement, qu'ont les militaires des deux camps, hein, des deux bords, hein, gendarmerie nationale et armée de terre, d'être embarqués, contraintes, par le pouvoir politique, dans une guerre dont ils ne veulent pas. Je parle encore une fois des officiers que j'ai interrogés, je ne parle pas des gens de la base. Hein, parce que certains militaires, par exemple, certains officiers de l'armée de terre me disent... Rien ne dit que, du moins moi, je ne pense pas que les gens de mon bataillon se révolteraient contre une intervention dans les banlieues, et trouvant ça inquiétant. Mais parlant d'eux, ils estiment qu'ils ne peuvent pas s'imaginer tirer contre des Français, intervenir contre des Français. C'est ça, voilà. C'est là le hiatus, c'est ce qui distingue finalement les positions des uns et des autres.
Gens qui nous comprennent à part les gens comme nous. On me reproche souvent de parler peu. frangin frangine, ce que j'ai à dire c'est si glauque que parfois ça vaut mieux. Laisse ta dignité au greffe avant de monter en ulcère, comme tu laisses tes bombes de mort avant d'entrer à la mosquée. Évoluer dans les quartiers aux libertés confisquées, entre les schmitts embusqués et les racistes offusqués. Jugé par des instances aux cervelles étriquées, compliqué d'y échapper, mais on reste impliqué. Condition survie, nos parvis font peur, elles ne changent ni notre couleur ni notre immense rancœur. J'attire le sort dans nos quartiers destructeurs. Condition survie, nos parvis font peur, elles ne changent ni notre couleur ni notre immense rancœur. J'attire le sort dans nos quartiers destructeurs. Astronautique, destiné s'écrit Vento dans le tour qu'est notre ghetto, devant se livrer à toutes sortes de trafics. Est-ce la faute de la couleur de ma peau ou à pas de peau? Je veux qu'on m'explique, vive, pourquoi c'est toujours moi et les miens qui portent le chapeau. Je reste explicite, le tacite peut pas décrire mes mots. Ha! Nos conditions de survie, nos parvis font peur, rien ne change ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'active par le sort dans mon quartier destructeur. Nos conditions de survie, nos parvis font peur, rien ne change ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'active par le sort dans mon quartier destructeur. Quartier destructeur.
Vous êtes bien dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on repart en compagnie de Hassel Benmessous. Hassel Benmessous qui est chercheur indépendant et journaliste et qui a publié entre autres le livre Opération banlieue, comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises, c'est de ça qu'on parle ce soir, et également un autre livre qui a été publié plus précédemment en 2006, Mixité sociale, une imposture, donc retour sur un mythe français, donc on parle guerre sociale et rénovation urbaine avec Hassel Benmessous. Compare le discours donc de ces gradés qui sont opposés à cette idée d'intervenir donc sur le territoire français
et qui disent et qui trouvent que la politique de Nicolas Sarkozy dans ces territoires-là est dangereuse.
Oui.
D'ailleurs, certains disent qu'on part du moins finalement Nicolas Sarkozy à Sharon et à Poutine. On n'est pas dans des distinctions finalement. D'opérette, j'allais dire. Hein. On est dans le dur, là.
Mais justement, dans leur discours, on entend refus de tirer sur des Français, refus d'intervenir en France, etc. Tandis que si on lit l'entretien que vous avez eu avec un syndicaliste policier qui est très, très pro... qui lui, si on regarde sa manière de présenter les choses, on a l'impression qu'il parle d'un ennemi extérieur, il parle pas de français. Il extranéise, je sais pas si le mot existe, littéralement les habitants des quartiers populaires.
Il parle pas d'ennemi extérieur, il parle d'ennemi intérieur.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne parlera jamais de français. Enfin, il me semble pas qu'il y ait même le mot.
Non, parce que quand on parle d'intifada dans les banlieues, quand on parle de finalement d'individus dont les valeurs sont distinctes des nôtres, finalement on fabrique une figure qui n'est pas nationale. On fabrique une figure finalement exogène. Hein, Et inquiétante. Donc, encore une fois, je veux dire, la police de combat, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette police de combat? C'est une police qui pense que quel est le dernier ressort finalement démocratique, le dernier ressort finalement de mise en cohésion de l'État. C'est-à-dire que sans la police, il n'y a plus d'État français dans les banlieues. Voilà, si on projette les choses comme ça à leur ultime. Partant de là, puisque c'est une police qui se donne pour vocation d'être le garant finalement de la nation, tout est permis, même les excès sémantiques. Quand j'entends parler d'intifada dans les banlieues, d'abord, il ne semble pas que les banlieues françaises présentent un contexte similaire à celui de Gaza, par exemple. Et par ailleurs, je crois que tout ça dénote qu'une police qui a été fourvoyée, je crois que tout ça découle de l'instrumentalisation qu'en a faite Nicolas Sarkozy depuis 2002. Et tous les moyens sont donc bons pour minoriser ceux qui vivent dans ces territoires. Et toutes les méthodes sont bonnes pour finalement y opérer, quelles qu'en soient finalement les modalités et les modes d'emploi.
Puisqu'on est dans le lexique, vous mettez au jour aussi justement tout un lexique d'inspiration néocoloniale et des références aussi dans l'idée de la guerre urbaine, des références à la bataille d'Alger.
Alors, évidemment, le livre procède par analogie, en étant nuancé quand même. J'ai été invité il y a quelque temps par les indigènes de la République et j'ai quand même tenu à montrer les limites de la posture, du moins du discours néocolonial. Évidemment, Nicolas Sarkozy use de références néocoloniales. Évidemment, il y a des pratiques qui finalement font écho à ce discours, à la question néocoloniale. Seulement, on ne peut pas dire non plus que cette idéologie finalement réactionnaire considère les banlieues comme étant des colonies françaises.
Non.
Ce serait d'abord se tromper et ce serait finalement amoindrir, élimer finalement les indices qui sont eux probants de cette orientation-là. Ce que je veux dire par là, c'est que à trop procéder par raccourci, par schématisation, finalement, on donne les moyens à ses opposants de contrecarrer un discours, du moins une analyse. Toujours est-il que, effectivement, ce qu'on observe, et c'est des choses qui m'ont été inspirées par, entre autres, les militaires, les officiers que j'ai interrogés, la bataille d'Alger, par exemple, qui a longtemps été une question taboue dans les rangs de l'armée de terre, dans les rangs de l'armée française tout court, est aujourd'hui en voie de réhabilitation. C'est ça que je... Et à Sisson, par exemple, le lieu de ce champ de manœuvre de l'armée de terre a eu lieu en novembre 2009, ça m'a été révélé par un officier instructeur, un rétex, c'est-à-dire un retour d'expérience de la bataille d'Alger sous l'égide de l'OTAN. C'est-à-dire que ça, c'est nouveau. Cette manière finalement de travailler le territoire, de cet urbanisme finalement sécuritaire, de reconquête, il procède de la même analogie que le travail opéré par le colonel Trinquier, le penseur finalement de la bataille d'Alger. Donc tout ça pour dire que il y a comme ça des indices convergents, alimentés par un discours qui lui finalement ne s'embarrasse pas, de ces raccourcis. Après tout, le débat sur l'identité nationale, le débat sur la déchéance de la nationalité, c'est aussi un débat finalement qui questionne les bons Français des mauvais Français, comme il y avait les bons musulmans durant la guerre d'Algérie, et les rebelles. Les rebelles d'hier étant les émeutiers d'aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que je suis assez précautionneux, non pas pour servir de la soupe tiède, mais parce que je pense que quand on travaille, quand on analyse les choses et qu'on travaille sur des faits, qu'on travaille sur des idées, il faut éviter de s'embarrasser finalement de charges trop lourdes, parce que finalement, ça risque de peser sur ce qu'on dit. Voilà. Mais effectivement, on peut poser la question du retour du colonial.
Vous êtes bien dans les oreilles loin du front, toujours les mêmes, c'était Kazé et Bee James versus Zone Libre de l'album, le dernier album, donc Les Contes du Chaos. On repart dans notre interview avec Hassan Belmessous. Hassan Belmessous qui est chercheur indépendant et journaliste et comme vous l'aurez bien remarqué, cette interview a eu lieu dans un café, dans un bistrot, au moment du repas de midi, donc ça, c'est un peu bruyant autour mais ça donne une petite ambiance à cette interview. Donc on repart avec Hassan Belmessous. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la personne qui est Éric Ciotti et de l'OPSI 2, puisque ça vient d'être voté.
Éric Ciotti, d'ailleurs je dois débattre bientôt à Nice, il est président, il est député, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. C'est le rapporteur de la prochaine loi de sécurité intérieure, la LOPSI 2. Il a pris la suite du rapporteur précédent, la même bande des sudistes, hein, la place du député-maire de Nice, Christian Estrosi. Voilà. Ce sont deux visions uniques, c'est une vision commune finalement, plutôt, des banlieues populaires, une vision radicale, extrémiste, finalement, qui, en gros, ne pense pas, finalement, pense la loi de sécurité intérieure comme une loi d'exception. C'est-à-dire que quand, par exemple, il est décidé de... Il envisageait plutôt de substituer au maire le préfet pour un maire qui refuse d'installer des caméras de vidéosurveillance dans sa commune, un préfet qui décide à sa place, finalement, de ces installations-là. Le maire, il est quand même souverain et qu'il est, il a été élu sur un programme politique et il a quand même la gestion de sa ville. Quand, par exemple, il est postulé qu'il faut baisser l'âge de la majorité pénale de 18 à 16 ans, est-ce qu'on peut faire une justice ordinaire avec des gamins de 16 ans comme on l'a fait avec des majeurs? Quand, par exemple, on envisage de couper les allocations familiales aux parents dont les enfants sont déscolarisés, pas totalement, mais voilà, les parents peuvent être condamnés à la place des enfants. Je trouve que on est comme ça face à un spectre terriblement inquiétant, dangereux, d'autant plus dangereux que ça n'est pas contesté, si ce n'est marginalement. Et donc ces gens-là se pensent un peu comme les Jeannes d'Arc du Sud, c'est-à-dire que voilà, ils sont en mission. Et leur mission, finalement, c'est d'égaliser par la force ce que le politique n'a pas pu égaliser. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du droit commun par la force. On ne peut pas faire de droit commun quand il n'y a pas de politique. Le droit, c'est le droit.
Justement, dans ce discours, Ciotti comme d'autres, il a le discours sarkozyste identique. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes ressorts de discours. Et on voit bien le rouleau compresseur, justement, qui empêche toute contestation, en fait, parce que c'est sans cesse sur l'émotion, sans cesse sur des choses. La sécurité, c'est incontestable. On peut pas contester, finalement. Tout est fait pour annihiler toute résistance et tout discours discordant.
Il y a de la contestation, mais elle est mineure. Elle est souvent inaudible parce que les médias ne font pas leur travail. Je parle des grands médias. Internet est insuffisant quand on me dit qu'Internet est... Internet est une caisse de résonance finalement aussi opérante, je n'y crois pas 3 secondes. On est face aussi à une gauche qui s'est consensualisée sur ces questions-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, la gauche sécuritaire, c'était le duo Julien Drey-Manuel Valls. Aujourd'hui, quand on y ajoute François Rebsamen, le sénateur maire de Dijon, et d'autres, je trouve que cette gauche de gouvernement, mais on peut y inclure également des élus de communistes, des gens du Front de Gauche, finalement, cette gauche qui était longtemps prise entre l'orientation sarkozyste et ce que le clan sarkozyste appelle la vision angélique de la société, c'est-à-dire cette idée que... d'autres victimisent les délinquants. Aujourd'hui, tout ça, c'était emporté. On parlait au départ de l'intervention de l'armée dans les banlieues. Ça n'est pas... Quand François Rebsamen dit dans un entretien au Nouvel Observateur que c'est envisageable parce que l'armée, les gendarmes ont fait... les militaires ont fait la preuve qu'ils savaient pacifier un territoire à l'étranger... Voilà, je veux dire, on est comme ça dans un contexte univoque. Les choses ne sont plus discutables. Elles le sont d'autant moins que, il faut aussi préciser quand même, le seuil de tolérance dans la société française, finalement, à ce qui ne va pas, à ce qui pose question, a fortement baissé. La sociologie de la population française, c'est fortement à droite. Les gens qui ont mis en poste dans les grandes villes des gens du Parti Socialiste et des Verts à Lyon, à Strasbourg, à Toulouse, à Dijon, à Tours, à Rennes, à Nantes, à Lille, à Valence, à Grenoble, vous voyez, je veux dire, c'est toutes ces villes comme ça, fortement gentrifiées, les gens les ont mis, pas parce qu'ils voulaient une politique de gauche, une politique juste, humaniste, une gauche finalement qui fasse le boulot de la politique. C'est-à-dire que mener des politiques publiques partout, même là où ça ne va pas. Que ce soit en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de culture, en termes de sociaux. Je veux dire, ces majorités ont été mises en place parce qu'elles offrent l'avantage de proposer des visages finalement qui sont rassurants. Le bâton et des valeurs de compassion. Mais les banlieues populaires, elles ne veulent pas de la compassion. Elles veulent, c'est des gens, les gens qui y vivent veulent leur part du gâteau. C'est-à-dire ne pas être considérés comme des gens qui vivent dans des zones de non-droit, mais dans des zones de droit commun.
Vous avez aussi écrit un livre sur la mixité sociale. Alors ça s'intitule « Mixité sociale, une imposture, retour sur un mythe français ». Donc vous déconstruisez ce mythe. Alors en quoi est-ce un mythe? Et enfin, d'abord, qu'est-ce que c'est que la mixité sociale? Qu'est-ce qu'on entend? Alors qu'est-ce qu'on est censé entendre par là? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on entend par là?
D'abord, pour revenir à Opération Banlieue, la rénovation urbaine est un outil finalement du pouvoir pour y mener à la fois la guerre sécuritaire et la guerre sociale dans ces quartiers. C'est aussi un des aspects du livre. C'est-à-dire qu'en gros, cette manière de redessiner un territoire, elle sert aussi finalement à tous ces corps sécuritaires de façon à contenir, à contraindre les individus qui y vivent et en gros à pouvoir y opérer de manière plus efficace. Et d'ailleurs, dans le livre Opération Banlieue, je fais longuement les propos d'un responsable de la police en Seine-Saint-Denis, Jean-Claude Cazot, qui explique qu'aujourd'hui, il est attendu tel le messie dans les commissions de rénovation urbaine, traitant des projets urbains dans différentes communes. Le messie au sens où, finalement, il donne quasiment l'onction. Je veux dire, il ne fait pas que valider, mais il donne un peu l'onction. C'est-à-dire qu'on attend un petit peu son intervention, on a ses opinions, ses jugements, ses conseils pour pouvoir intervenir sur le plan urbanistique. Ce qui montre ce qui prouve finalement que la politique de la ville telle qu'elle a été créée est définitivement morte. Quand on livre sur le mythe de la mixité sociale, alors celui-là, il s'agissait finalement à l'époque de déconstruire finalement qui a servi de constante dans la politique de la ville au début des années 2000. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque la rénovation, déjà avec les contrats de ville, fin des années 90, début 2000, il y avait cette idée que la démolition, la manière de reconfigurer ces quartiers était aussi faite parce que ces quartiers ne correspondent plus aux attentes de ceux qui y vivent, de ceux qui pourraient y vivre, et que pour recréer une sorte d'idéal démocratique, il fallait recréer de la mixité. C'est intéressant, c'est généreux, mais c'est complètement cynique, parce que dire que ce dont souffrent ces quartiers-là, c'est leur absence de mixité, ça signifie qu'il y a eu de la mixité déjà. Et ce que je montre dans cette imposture française, c'est qu'il n'y a jamais eu de mixité sociale dans les grands ensembles en France. Il y a eu une fuite des classes moyennes à partir des années, du milieu des années 70, une fuite qui s'est accélérée aussi parce que dans les trajectoires résidentielles des uns et des autres, les gens ont voulu devenir propriétaires. Après tout, pourquoi pas hein. Mais cette France finalement de l'achat, cette France des propriétaires, rappelez-vous le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, hein, c'est quand même assez exclamatoire comme slogan capitaliste, hein, une France de propriétaires. Cette France des propriétaires a joué aussi contre l'habitat social. Seulement, on oublie que 70% de la population française, aujourd'hui, se trouve dans les conditions de postuler pour un logement social. 77 Français sur 10 sont dans les critères d'accession à un habitat social. Et voilà, pour revenir à votre question, ce que j'ai identifié, c'est que la plupart des quartiers, du moins ceux sur lesquels j'avais travaillé, en travaillant sur des archives, le ministère de l'Équipement à Fontainebleau, entre autres, et les archives aussi de comités d'entreprise de syndicats, donc qui est comité d'entreprise qui s'occupait d'ouvriers étrangers, hein, ouvriers immigrés, j'avais noté que il y avait à la fois déjà des quartiers, des entrées ghetto, c'est-à-dire que les bailleurs, je prenais un exemple, au Minguette, à Vénissieux, le premier grand ensemble qui a connu des violences urbaines en 81. En juillet prochain, ça fera 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, certaines entrées d'immeubles étaient habitées, entre autres, par des étrangers, par quotas, mais la majorité d'entre elles refusaient, donc limitaient à des faibles pourcentages. Hein. Il y avait déjà bailleur X qui prenait 5%, bailleur Y qui en prenait 10%. Étranger, ça ne signifie pas extra-communautaire. Hein. Italien, portugais, espagnol, voilà, ce sont ceux qui ne sont pas de nationalité française. Donc il y avait déjà une politique de quotas et il y avait une politique discriminante, c'est-à-dire qu'il y a des bailleurs qui n'accueillaient pas d'immigrés dans leur patrimoine. Et moi, je me souviens, il y a des notes que j'avais trouvées d'un comité d'entreprise de la... je crois que c'était de la CGT que je cite dans le livre, où les responsables syndicaux s'émouvaient de ce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des logements pour certains de leurs adhérents immigrés. Donc, de la même manière, je montre dans le livre qu'une ville comme Paris, la ville monde, hein, si on voulait la railler, n'a jamais été une ville socialement mixte. Et enfin, l'école n'a jamais été un lieu socialement mixte. Donc tout ça pour dire que, à travers finalement cette notion de mixité sociale, je trouve que on joue finalement de manière assez diabolique sur la singularisation des individus. C'est-à-dire que cette idée que ces quartiers vivaient mieux, ces quartiers villages, un peu, il y a un peu cette idée, hein, finalement, c'est ça l'identité nationale. Hein. À croire que la banlieue, c'était un faubourg. C'est vrai, il y a une sorte de nostalgie, finalement, d'un âge d'or, avec les belles photos de Doisneau, de Pardon, la France prolétaire, ouvrière, cette belle France, finalement, en gros, qui vivait bien parce qu'il n'y avait pas de la racaille. Tout ça, c'est un mythe. Les grands ensembles n'ont jamais été socialement mixtes, d'une part. Et deuxièmement, je trouve que c'est cynique, parce que finalement, ça illégitime ceux qui y sont aujourd'hui.
La politique de mixité sociale amène à ce que, en fait, les logements sociaux, on parle de logements sociaux, mais il y a plusieurs catégories de logements sociaux, et finalement, ce qui est le plus construit aujourd'hui, c'est les logements sociaux, pas pour les plus bas salaires, en fait, c'est pour les classes plus aisées. Donc, finalement, les loyers, enfin, les appartements à loyer vraiment modérés se font de plus en plus rares, et qu'avec cet argument de la mixité, finalement, on éloigne les populations les plus pauvres le plus loin possible de la ville, en fait.
Oui. Moi, j'étais sur le discours, l'analyse du discours imposteur. Oui, effectivement, à travers, finalement, par le biais de ce discours, finalement, socialement, qui se veut généreux, de manière brutale, on élimine du logement social dans certains territoires. Et finalement, on interdit certains territoires à des étrangers. C'est-à-dire que finalement, ce discours de mixité sociale, il légalise une politique de quotas. Voilà. Ça, c'est l'un des effets assez diaboliques. Mais c'est pour ça que... moi, je me souviens, dans les débats que je faisais au moment de la sortie du livre, en 2006, et même un peu après... On me disait souvent, même des habitants, hein, des gens me disaient « Mais non, vous vous trompez, ici il y avait tout le monde, on était bien, il y avait des Français, il y avait des Arabes, il y avait des Italiens, des Espagnols, il y avait des Polonais, il y avait des... » Et finalement, quand je les questionnais, alors il y avait dans votre hall, il y avait qui, il y avait quel métier, et dans le hall, et dans le vôtre, et dans le vôtre. En fait, assez vite, on se rendait compte que, oui, il y avait, mais ce que la personne voulait dire, j'étais la seule arabe avec des Français, donc ça vivait bien. Moi, j'étais la seule espagnole avec des Français, et donc ça vivait bien. En gros, il y avait une sorte de réécriture, finalement, d'un espace social. Quand je parle de l'illégitimité, c'est ça, c'est-à-dire que ces gens... Je pense que les choses en termes légitimes, parce qu'ils sont inclus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas, et c'est ça qui est très compliqué finalement, et Et ce sont les effets du poison finalement instillé par cette idéologie sécuritaire. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à être le moins pauvre des pauvres. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que, bon, et là, on communautarise. Et les légitimations, ça commence là. C'est-à-dire que voilà, dans ce glissement finalement social, il faut surtout pas plonger le premier. Voilà. Et moi, je trouve ça inquiétant. Après, on peut pas non plus être sévère avec les individus. On peut pas non plus être méprisant. On peut faire qu'un constat. D'échec de la politique et de la vie et du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça doit être. L'ensemble, ça doit être un objectif. Alors évidemment, ça ne s'instaure pas, ça ne se régule pas, ça ne se vote pas. Mais le vivre ensemble répond finalement à des conditions du vivre ensemble. La politique telle qu'elle menée dans ces territoires, telle qu'elle a été menée, ne crée pas les conditions de ce vivre ensemble-là. Quand finalement on veut être le moins minorisé des minorisés, on ne peut pas finalement tendre vers le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est quelque chose de l'ordre de l'utopie. Après tout, c'est les utopies qui permettent de rester debout et d'y croire.
Oui, parce que alors là, j'étais un peu étonnée. En fait, vous réussissez quand même à terminer sur une note positive le livre, parce que c'est vrai que vous rappelez que y a quand même, c'est ce que vous venez de dire, il y a quand même des résistances et politiques au sein de ces quartiers, mais effectivement, elle est combattue très très durement.
Oui, parce que moi, je conteste cette idée que dans les banlieues populaires, les gens ne vivent que de pain et de RMI et de télé-réalité, je veux dire, ou de bling-bling. Je n'y crois pas 3 secondes. Évidemment, quand on est écrasé par la précarité, quand on est aplati par un climat de tension tendu à l'extrême, évidemment, c'est compliqué de s'investir, de se mobiliser dans l'espace public. Malgré cela, ce que j'observe, c'est que tout n'est pas perdu, que cette idée que des néo-réactionnaires dans les années 2000, début 2000, sur les territoires perdus de la République, notre référence aux barbares dans la cité, tout ça c'est honteux, c'est faux, et ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des gens qui s'investissent, alors le problème c'est la fragilité de cet engagement-là. Et je regrette que les partis politiques, surtout les partis de gauche, finalement, ne soutiennent pas ces gens-là. Quand ils les soutiennent, c'est uniquement dans une vision comptable assez dérisoire. Je regrette que les partis politiques, finalement, ne s'ouvrent pas au sens... quand je dis s'ouvrir, c'est ouvrir l'espace public, plutôt, à ces gens-là. C'est-à-dire que moi, j'ai le cas... une personne dans un des entretiens que j'ai fait sur un autre terrain, pour la même recherche, parce qu'elle est comparative, une fille qui a un poste important, du moins qui travaille dans un centre social avec des responsabilités, et qui a été approchée par un parti de gauche pour être en liste, en position éligible aux européennes, aux régionales de mars 2010. Évidemment qu'elle a refusé, du moins elle a eu raison d'ailleurs de refuser, mais ça prouve que les gens qui lui ont proposé ça n'ont pas compris les raisons de son engagement et ce qui fait que pour elle la politique ça a un sens. Après, encore une fois, les choses sont fragiles et ma crainte c'est que finalement après tout... Un scénario à la brésilienne, par exemple, soit possible. Hein, c'est-à-dire que, rappelez-vous ce qui s'est passé dans les favelas de Rio, où l'armée est intervenue, après que l'économie informelle ait eu une emprise aussi sur tous les territoires, mais parce qu'il n'y a pas de politique publique, parce que les choses ont été, parce que ces territoires ont été abandonnés. Dès lors qu'on abandonne un territoire, eh bien, c'est l'instinct de survie. Quelqu'un me disait, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues, on parle de cités sous l'emprise de la drogue. Est-ce que finalement, l'environnement qui est finalement qui aujourd'hui opère dans ces territoires-là, cette stratégie du pourrissement de ce pouvoir-là, est-ce que finalement c'est pas aussi créer les conditions d'un déclencheur comme celui-là, hein, où après tout, lorsqu'on envoie tous ces escadrons de CRS pour occuper du terrain, pour pacifier le terrain, pour maîtriser le territoire, est-ce que c'est pas aussi une manière de jusqu'au boutiste finalement d'arriver à ce qu'à un moment un drame survienne du point de vue politique. Le drame, c'est pas un jeune qui meurt, hein. Je vous rassure, ces gens-là sont trop diaboliques, c'est qu'un policier meurt. Et dans ce cas-là, le scénario inacceptable, c'est-à-dire l'envoi de l'armée dans les banlieues populaires, se concrétisera.
Faute de temps, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, d'abord, achetez le livre, Opération banlieue. Achetez le livre, parce que je pense que, voilà, de mon point de vue, là, je réagis en tant qu'éditeur, un livre, c'est toujours un outil utile pour se faire sa place dans l'espace public, pour débattre et pour contester. Et surtout, la difficulté de défendre ce type de livre-là, c'est toujours plutôt celle de s'imaginer, croire qu'on est finalement dans du fantasme, ou sinon, ça y est, les choses sont jouées et que la dimension finalement de la banlieue comme étant un immense fait divers, un fait divers permanent, fait que, on détourne la tête, on ne s'y intéresse pas. Je crois que ce qui se passe dans les banlieues aura inévitablement un écho ailleurs, sur tout le territoire national. J'étais récemment à Auch invité par un collectif d'alternatifs et cette faiblesse des politiques publiques sur le territoire de la banlieue fait écho à cette même faiblesse des politiques publiques dans les villes moyennes et dans les espaces ruraux. C'est le même côté de la pièce. Si ce n'est que dans les banlieues populaires, ça a une dimension spectacularisée par les médias. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Opération banlieue, ce n'est pas un livre sur les banlieues, c'est un livre d'enquête qui nous concerne tous. Voilà.
L'espoir disparaît le soir dans les squares. Entre les fixes de hache, les risques, les rixes finis au rasoir. Hasard d'une ville banlieue sard, où les drogues et les armes ont tué Mozart et Beaux-Arts. Supermarché en plein air, on trouve de douille à des cailloux, des pilules. Tout le monde cherche le nerf de la guerre où les voyous pullulent. Ça postule pour être nul, moi mon groupuscule. On vit entre crapules de l'aube au crépuscule. Dans mon opuscule, les raisons se bousculent. Les stipulés qu'au moindre faux pas, faut qu'on émascule. Les plus forts basculent, bon adulte adulte. Les billets neufs comme proliques, j'ai qu'à dans l'arbuscule. Atmosphère austère, les différences gèrent. Discrètement, témoin oculaire, préférence terre. À trop jouer, on se perd, on est tout gangster. On a le même but, même si on procède pas de la même manière. Derrière un rideau de fer, si j'ai ma carrière. Si chanceux que la poisse elle-même surveille mes arrières. La pénitentiaire, plénipotentiaire. Pense à l'abilissement des miens de manière outrancière. Éternel aller-retour entre le star et les tours. Mentalité trop en char, présente jour après jour. Si tu fais un séjour dans nos cités, t'es sûr de croiser l'animosité humaine plus qu'exacerbée. Comment vivre libre en étant fermé? On a grandi dans des taudis comme étant interné. Les gyropares bleus travaillent à nous cerner. La seule issue c'est le cercueil quand tu te trouves encerclé dans un cercle vicieux. pernicieux. Il grave la complexe, chacun s'adapte l'ambitieux. Irrévérencieux, toujours licencieux. On brûle les preuves avec naissance, comme la France brûle les chances. Une telle aisance dans la violence. En foyer cagoulé, on vient chercher l'opulence. Tous les moyens sont bons pour contrer la pestilence. Post-incarcération, la détermination reste immense. Prolétariat, pas trop de paix avec commissariat. Crois pas qu'on se retrouve là sur la base du volontariat. Trop éthique des Kaira, une victime des par-là. Paranoïa profonde et notre condition de paria. Alias le haut lieu du scabreux. Ma banlieue 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 alias le haut lieu du scabreux.
Au lieu du scabreux, c'était encore une fois Zone Libre versus Kazé et Big James. Et auparavant, on entendait donc l'interview avec Hassen Belmessous. Hassen Belmessous, qui est chercheur indépendant, journaliste, et qui a publié, en tout cas, on l'a interviewé sur ces deux livres-là, Mixité sociale, une imposture, retour sur un mythe français, qui a été publié à la Talente Collection. Comme un accordéon en 2006, et puis Opération Banlieue plus récemment en 2010, paru donc à la Découverte. Opération Banlieue, comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises, dont je vous recommande chaudement la lecture pour les deux livres, donc à la fois à la Talente, qui est une petite maison d'édition qu'il faut soutenir, et à la Découverte pour Opération Banlieue.